Voilà. Alors, pour notre partage de cet après-midi, je souhaite donc soulever avec vous la problématique du pardon, à partir d'une situation concrète. Comme Annie m'a présenté un petit peu, j'étais d'origine bouddhiste et j'ai reçu le sacrement de baptême dans l'Église catholique de France en l'année 1983 à l'âge de 36 ans. Donc je suis d'origine bouddhiste. Quand j'ai à me présenter, je dis toujours je suis une chrétienne catholique venue du bouddhisme. Cela veut dire que dans la conversion, on ne supprime pas tout. On ne tire pas un trait bien épais. C'est-à-dire notre histoire continue. Parce que je viens de l'Asie, parce que je viens du bouddhisme, je n'aime pas parler des concepts aussi importants dans la foi chrétienne, tels que le pardon, que dans les discours intellectuels ou théologiques. Parce que notre foi chrétienne est une foi dans un Dieu qui s'est incarné. Donc, tout concept théologique doit prendre racine dans nos expériences d'hommes et de femmes. C'est pour ça, cet après-midi, je souhaite donc aborder la problématique du pardon. Est-ce que le pardon est une valeur universelle ou non, à partir d'une situation concrète? Alors, mon topo va donc se diviser en deux grandes parties. Dans la première partie, je vais vous parler du peuple Khmer du Cambodge. Comment ce peuple Khmer vit 30 ans après le génocide de Khmer Rouge. Pour ça, je vais vous rappeler un peu les événements de ce génocide. Dans cette première partie, nous abordons ensemble, on essaie de voir est-ce qu'on peut parler du pardon dans ce pays où 95% de la population se dit bouddhiste. Première partie. Deuxième partie, je partagerai avec vous ce que moi, la chrétienne catholique aujourd'hui, comment je peux me situer et comment je peux comprendre du pardon chrétien. Voilà, ça va? C'est bon, vous m'entendez bien tout ça pour le temps? D'accord. Alors, on y va. Pour la première partie, le Cambodge et son peuple, 30 ans après. Voyez bien que cet après-midi, je ne vais pas aborder spécialement mon chemin spirituel qui est écrit dans le livre « Revenu de l'enfer ». Parce que ceux qui ont déjà lu, ce sera ennuyeux d'entendre toujours parler la même chose. Et ceux qui n'ont pas lu, c'est l'occasion d'acheter. Les livres sont faits pour ça. Vous voyez, une femme asiatique est en même temps une femme d'affaires. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Voilà. Alors, le Cambodge et son peuple, 30 ans après. Dans cette première partie, on va parler de trois choses. La première chose, je vais vous parler de la voie spirituelle qui a façonné le Cambodge, c'est-à-dire le bouddhisme. Et dans la deuxième partie de cet exposé, je vous dirai un peu les dates historiques du Cambodge. Et après, nous abordons ensemble la problématique du tribunal international que l'ONU est en train de monter au Cambodge actuellement pour juger les Khmer Rouges. Nous sommes chrétiens, donc nous sommes bien dans notre monde, donc on va réfléchir tout ce qui se passe dans ce monde. Alors, la voie spirituelle qui façonne le Cambodge, c'est bien le bouddhisme. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes de bouddhisme. Il y a beaucoup d'écoles bouddhiques et chaque école a sa spécificité. Une école, comment vous dire, chaque école a sa spécificité et puis toutes les écoles sont très différentes les unes des autres. Par exemple, si vous allez visiter le bouddhisme zen, qui est très connu en France, qui est un bouddhisme qui vient du Japon. Quand vous rentrez dans la salle de prière, il n'y a rien, tout est nu. On médite dans une salle où il n'y a rien, pas d'image, rien. C'est le dépouillement total. Si vous quittez le centre zen pour aller voir le bouddhisme tibétain, qui est aussi très connu en France, qui est le bouddhisme du Dalai Lama, je vous dis en passant que le Dalai Lama n'est pas le pape des bouddhistes. Il est le chef du bouddhisme tibétain qui est très minoritaire en Asie. Alors, si vous rentrez dans un temple tibétain, alors vous allez avoir des décors très, beaucoup de divinités, il y a même des divinités féminines. D'où une grande différence entre le zen et le bouddhisme tibétain. Et si vous allez dans le bouddhisme du sud-est asiatique, le bouddhisme d'où je viens, qu'on appelle le bouddhisme de la tradition des anciens, ou le bouddhisme petit véhicule, tel qu'on a l'habitude de dire en Occident, qui est d'ailleurs le bouddhisme qui se trouve le plus près du bouddhisme d'origine, là c'est encore différent. Il y a beaucoup de statues de Bouddha, mais il n'y aura pas de divinité de représenter. Vous voyez que si on passe d'une école à une autre, il voit la grande différence entre les bouddhistes. Mais seulement toutes ces écoles bouddhiques ont quand même une racine commune. La racine commune, c'est le fondateur lui-même, le Bouddha. Quand on dit Bouddha, ça vient tout simplement l'éveillé, celui qui a vu la vérité, qui a trouvé la vérité. Qui est né au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le bouddhisme est né au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a le fondateur, et puis il y a ce qu'on appelle le discours fondateur du bouddhisme, qui est les quatre nobles vérités. Tout ça, je ne vais pas y entrer, parce que ça, nous n'avons pas assez de temps. Il faut que vous veniez à Marseille sur le cours sur le bouddhisme. Ou à Montpellier, cette année, il y avait tout un cours de programmé à Montpellier. Mais c'est le bouddhisme est donc une tradition religieuse. Nous, en Asie, on ne dit pas religion. On n'appelle pas religion, on parle de la voie, V-O-I-E. En Asie, on dit la voie de Jésus-Christ, la voie de Mohammed, la voie du Bouddha. On dit la voie. Quand on dit la voie, c'est très bien, vous voyez, parce que quand on rentre dans une voie, on ne peut que marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Qui c'est qui rentre dans l'autoroute pour s'arrêter? Et vous comprenez, quand je suis arrivée dans la foi chrétienne, quand les chrétiens me parlent des croyants non pratiquants, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Comment on pourrait être croyant et non pratiquant? Comment on peut rentrer dans une voie et ne pas marcher? C'est impossible pour moi. Mais après, petit à petit, on m'a appris des choses, quoi. Voilà. Alors, dans cette voie, et je parle de la voie, vous voyez bien que les premiers chrétiens parlent de la voie aussi. Relisez les actes des apôtres. Les actes des apôtres. On parle de la voie. Alors, dans cette voie spirituelle, on croit, tout le monde croit à un concept qu'on appelle le karma. Le karma, c'est un mot sanskrit. Quand je vous dis sanskrit, c'est la langue ancienne de l'Inde. C'est la langue sacrée du bouddhisme et de l'hindouisme. Alors, le mot karma en sanskrit, ça veut dire l'acte et ses conséquences. C'est dire que un acte que vous posez, ça va entraîner une conséquence. La cause et l'effet. Suivez bien, vous voyez que jusqu'à quel point on est responsable de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si vous arrive un malheur aujourd'hui, c'est simplement le résultat négatif d'un acte négatif que vous aviez posé. Vous me suivez dans votre vie avant, par exemple. Parce que dans cette tradition spirituelle, dans cette voie spirituelle qu'est le bouddhisme, on croit que chaque être vivant a plusieurs vies. On naît, on meurt, on renaît, on remeurt. Et on tourne en rond, dans un cycle. Et le bouddhisme n'espère pas renaître. L'espérance bouddhique ne se trouve pas dans ce que vous appelez ici en Occident la réincarnation. Non. Les bouddhismes ont peur de la réincarnation. Leur espérance, c'est de sortir de ce cycle, d'atteindre ce qu'ils appellent le nirvana. Le nirvana, c'est de ne plus renaître. Voyez? Et nous autres, les Asiatiques, nous sommes toujours très étonnés d'entendre les Occidentaux parler de la réincarnation. Parce que en Occident, en France, on fait de ce concept de réincarnation qui est négatif pour les bouddhistes, on va faire quelque chose de positif. On pense que c'est une chance d'avoir plusieurs vies. Ce que je n'ai pas le temps de faire dans cette vie, je le ferai dans ma vie prochaine. Ce n'est pas la vie des Asiatiques ni des bouddhistes. Et on dit toujours que les Occidentaux, ils sont très optimistes pour faire de quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. Donc, il y a donc ce karma, ce cycle, qui fait que chaque être vivant tourne et il passe d'un état à un autre. Vous pouvez être une femme, un homme, alors, ça y est, je vous dis en passant, c'est dire que pour être le disciple du Bouddha, pour sortir du nirvana, là je parle dans le bouddhisme petit véhicule, il vaut mieux avoir le corps d'homme, naître en homme. Seul homme peut rentrer, peut suivre le maître et quitter ce cycle des morts et des naissances. Et une femme qui se conduit bien dans sa vie de femme, si elle est intelligente et tout, c'est dire que la vie prochaine, elle renaîtra en homme. Mais l'homme qui pose mal ses actes d'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas été un bon époux, qu'il n'a pas été un bon père, à la vie prochaine, il peut revenir en femme, ou pire, en crapaud. Donc, vous voyez, ça, je vous dis qu'il y a l'acte. L'acte que nous posons, qui va déterminer l'état de que nous allons être. C'est une grande responsabilité. Et il n'y a pas d'entité supérieure pour venir juger si vous allez être crapaud ou femme. Non. C'est l'acte de lui-même qui détermine. Vous me suivez? Le bouddhisme, c'est une voie spirituelle qui ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu. Donc, il y a ce karma. Le karma qui détermine tous nos actes. Donc, une grande notion de responsabilité dans cette croyance-là. Tu as posé des actes mauvais, ces actes vont te rattraper tôt ou tard. Et où se trouve la responsabilité de chacun de nous dans le temps présent? C'est-à-dire d'essayer de faire de telle sorte, si on a posé un acte mauvais, c'est d'essayer de reposer des actes bons. Non pas pour compenser, parce qu'on ne peut pas compenser, ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas. Mais c'est simplement pour fléchir un petit peu, pour mettre un peu loin les actes mauvais, vous voyez? Pour l'éloigner un petit peu. Donc il est urgent pour chaque être humain de poser des actes bons. Là, je tiens à ce que vous compreniez bien, parce que vous allez voir comment les bouddhismes vont parler de ce que c'est que vous, ici, vous appelez le pardon, mais les bouddhistes ne parlent pas du pardon. Les bouddhistes, dans ma langue maternelle, on va dire le mot qui dire qu'on a traduit tout le temps en français en pardon, pardonner, le mot qui dit, ça veut dire enlever la peine ou mettre à distance la peine. Vous voyez? C'est ça, textuellement. Enlever la peine, mettre à distance les fautes. On parle beaucoup de fautes, on ne parle pas de péché. Il n'y a pas de concept de péché, étant donné qu'il n'y a pas un Dieu. Vous êtes d'accord? Il y a mes amis, touristes français, qui sont allés au Cambodge, et puis qui me disent, mais c'est extraordinaire ce peuple, il a tout pardonné, tout le monde a le sourire. Et c'est génial, on m'a dit, mais j'ai dit, vous vous trompez, vous vous trompez. Parce qu'un Khmer n'a pas besoin de pardonner. Suivez bien. Un Khmer rouge qui a tué plus de 2 millions de la population Khmer en 1975 sur une population de 7 millions, il y avait 2 millions de liquidés. Ben, ces gens-là qui ont posé des actes mauvais, ces actes vont le rattraper tôt ou tard. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie prochaine. Si le karma va faire son travail, le karma fait son travail. Pourquoi se fatiguer à faire à la place du karma son travail? Vous me suivez? On est sûr comme ça. Donc, là, c'est du côté des victimes. C'est du côté des victimes. Alors, du côté des bourreaux, là, c'est plus difficile. De ceux qui ont fait le mal, de ceux qui ont posé des actes mauvais. Eh bien, c'est là, ils ne sont pas si tranquilles que cela. Ils le savent très bien que tôt ou tard, il faudrait payer. Il faudrait payer. Donc, ils ne sont pas si tranquilles que ça, mais le bouddhisme leur offre une porte quand même. C'est-à-dire qu'ils essaient de mettre des actes bons, vous voyez, de reconstruire leur mérite, comme on dit, de s'aimer leur mérite. Donc, mais on ne sait pas quel sera le résultat. Personne n'est là pour le dire, mais il est urgent pour eux de mettre quand même des actes bons, afin de couper, d'éloigner. Mais malgré cela, ils ne sont pas si tranquilles que ça.